sujet que nous avons ébauché hier, toujours sous ce thème, les droits du Fils de l'homme, mais à l'écoute du Fils de l'homme. Et hier, nous voyons que ce Fils de l'homme avait droit à notre foi. Et nous avons lu dans Luc chapitre 18, au verset 8, cette question que Jésus posait, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il devrait trouver des cœurs qui croient en lui. Et si les cœurs croient en lui, eh bien, ces cœurs aussi l'attendent. Car croire en Jésus, c'est croire ce qu'il a dit. Et la plus grande et la plus merveilleuse promesse qu'il a faite aux siens, c'est qu'il reviendrait. Le Seigneur a dit qu'il reviendrait. Et ce soir, je voudrais vous parler de la première phase de son retour. Quand le Seigneur reviendra, que se passera-t-il? Que devons-nous attendre au sujet de la venue du Seigneur? Et tout d'abord, je voudrais vous poser affectueusement une question. Croyez-vous que le Seigneur reviendra? Et pour quelle raison le croyez-vous? Parce qu'il le dit, parce que c'est écrit. Vous ne le croyez pas parce que vous le sentez. Il n'est pas question de sentir quelque chose. Il est question de croire. Parce que je puis, même si j'ai beaucoup de cicatrices sur mon corps, bien souvent, je pressens le mauvais temps. Mais un jour, il se peut que je ne sente rien et qu'il pleuve quand même. Donc, ce n'est pas une question de sentir. Il l'a dit et sa parole s'accomplira. Je ne sais pas si vous avez une connaissance approfondie au sujet de ce retour du Seigneur. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il l'a dit? Nous avons vu que dans le Nouveau Testament, il y avait 325 textes qui parlent de son retour. Et alors, si on prenait ceux des évangiles, nous verrions que c'est surtout dans les évangiles que nous trouvons cette promesse qui est sortie de la bouche même du Seigneur. Mais je la résume, cette promesse, dans Jean 14, je vous le cite, verset 1 et suivant, « Que votre cœur ne se trouble point, dit-il à ses disciples. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. » C'est clair? Mais beaucoup de gens appliquent ce verset à quel moment? Au moment de la mort d'un des leurs. Le Seigneur est venu pour le prendre, n'est-ce pas? Et c'est ça le retour du Seigneur, c'est ça la venue du Seigneur. Ce serait la mort, la venue du Seigneur? Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Bien sûr qu'à notre mort, le Seigneur recueille notre esprit auprès de lui, mais ce n'est pas le retour du Seigneur qui s'accomplit à la mort. Une autre promesse que je vous cite dans la prière sacerdotale, Jésus a affirmé à son Père que sa volonté, c'était d'avoir les siens auprès de lui. Il dit, « Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. » On a dit aussi que c'est la seule fois qu'on entend dire « Jésus, je veux ». C'est la seule fois que Jésus a dit « Je veux ». Et il l'a dit pour qui? Pour nous. il l'a dit pour lui. Père, je veux que quant à ce que tu m'as donné, que là où je suis, il y soit aussi avec moi. Et alors, quand lui-même a été enlevé et que les disciples le voyaient s'en aller au ciel et qu'ils regardaient fixement vers le ciel, que s'est-il passé? Actes, chapitre 1. Tout à coup, deux hommes vêtus de blanc leur sont apparus et ont dit à ces apôtres, pourquoi regardez-vous fixement vers le ciel ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous avez cela dans Actes 1, verset 11. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Alors, ce verset correspond avec la prophétie de Daniel. Il voit un fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Il est parti avec les nuées et il revient sur les nuées du ciel. Mais on voudrait bien savoir comment la chose doit se produire. Alors, vous arrivez à l'apôtre Paul qui a reçu la révélation de ce mystère. Comment le Seigneur reviendra-t-il? Et que se passera-t-il pour nous? Dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre expose le grand sujet de la résurrection des morts. Il affirme qu'il y a une résurrection des morts, ce qu'Abraham avait pressenti. Abraham avait eu cette lueur, cette lumière, que même si Isaac devait mourir, il ressusciterait. Mais il n'avait aucune idée de ce que pouvait être une résurrection, mais qu'il vivrait à nouveau. Et alors, l'apôtre Paul, à ceux qui niaient la résurrection, dit, mais s'il n'y a pas de résurrection, eh bien, il n'y a pas de christianisme. La pierre angulaire du christianisme, c'est la résurrection des morts. Si vous niez la résurrection des morts, eh bien, il n'y a pas d'espoir pour vous et pour l'humanité. Il montre cette preuve de la résurrection de Jésus d'abord, dans le début du chapitre. Puis après, il développe cette conséquence. S'il n'y avait pas de résurrection, Jésus, lui non plus, ne serait pas ressuscité. Et si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi en lui serait vaine. Nous serions, nous qui proclamons la résurrection, trouvés de faux témoins de Dieu. Et si Jésus n'est pas ressuscité, c'est que son sacrifice n'a pas expié nos péchés, alors nous serions encore dans nos péchés. Et non seulement cela, tous nos morts seraient perdus. Ce que nous espérons revoir, s'il n'y a pas de résurrection, eh bien, nos morts seraient perdus. Et puis alors, s'il n'y a pas de résurrection, nous-mêmes, qui croyons la résurrection, qui croyons que nous paraîtrons devant le Seigneur, et qui, sur la terre, avons une certaine manière de vivre, eh bien, s'il n'y avait pas de résurrection, après la marche des chrétiens, qui ont voulu suivre le Seigneur, ces chrétiens seraient les plus misérables de tous les hommes. Nous serions les plus misérables de tous les hommes. Mais justement, nous sommes heureux et nous pouvons supporter toutes les souffrances parce que nous savons qu'à la mort, tout n'est pas fini, mais qu'il y a une autre vie et que nous connaîtrons ensuite. Et alors, l'apôtre Paul, après avoir développé tout cela et avoir montré dans quelle sorte de corps nous nous trouverons, non plus un corps de chair, un corps terrestre, un corps dans lequel on souffre, un corps d'humiliation, il dit ceci au verset 50. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que c'est que la chair et le sang? C'est nous, les vivants. On est fait de chair et de sang. Séparés le sang de la chair, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. Hein. Alors, tant que nous sommes vivants, nous sommes faits de chair et de sang. Bien, il dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc, on ne peut pas entrer avec notre corps de chair et de sang. Tel que nous sommes, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Et puis, quand il parle de la corruption, cela représente qui? Ce sont les morts. Quand vous avez déposé un corps, même que l'on a aimé, eh bien, nous savons qu'il se détruit, qu'il se corrompt. Nos morts, eh bien, quant à leur corps se corrompt. C'est cela la corruption. Donc, dans ce verset, Paul va parler des vivants et des morts. Et il dit que dans cet état-là, vivants ou morts, nous ne pouvons pas entrer comme ça dans le royaume de Dieu. Alors, à cause de cette vérité, que la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité, voici, dit-il au verset 51, je vous dis un mystère. Eh bien, un mystère dans l'Écriture, c'était une vérité cachée, mais qui a été ensuite révélée. Hein? Alors, ça, c'est bien clair. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Donc, il y aura des vivants à la venue du Seigneur. Nous ne mourrons pas tous. Tous ne seront pas morts. Mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés ou transmués. Car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité, ça ce sont pour les morts, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ton aiguillon, au sépulcre ta victoire. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Si le Seigneur ne revient pas durant notre existence terrestre, durant notre vie, si nous devons passer par la mort, est-ce que vous avez peur de la mort?
Non.
C'est sûr? Vous savez, de loin, hein? De loin, on l'auréole, la mort. Oh, moi, je suis prêt. Puis quand elle vous amène votre carte de visite, vous courez chez le médecin. Hein? Non, mais moi, je suis prêt à aller vers le Seigneur. Oui, oui, mais... Alors, maintenant, c'est l'heure. Déjà? Ah oui, déjà. Déjà. Eh oui. Vous savez, on est des fois surpris quand tout à coup, on apprend que tu as un cancer. Tu es jeune encore. Tu sais que on nous dit des fois la vérité. Tu en as pour 2 mois. Si on te fait la chimiothérapie, peut-être qu'on te prolongera un peu, mais tu auras d'autres inconvénients. Alors, il y a une décision à prendre. Hein? Mais au fond, la mort, pourquoi est-ce qu'on en a peur? Est-ce que c'est seulement à cause de ce passage qui est peut-être justement quand même un peu angoissant, mais le Seigneur a fait des promesses, même quand tu marcherais par la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Donc on peut être sûr du secours du Seigneur dans ce moment-là. Mais les gens qui ont peur de mourir, est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ont peur de la mort en elle-même? Pas toujours. Non, non, non. C'est l'idée qu'on n'est pas sûr de ce qu'il y a après. Même les athées qui disent, qu'est-ce que c'est? Après la mort, tout est fini. Hein? Alors, suivant la vie qu'on a, on peut presque désirer la mort. Autant la mort que la vie. Quand on voit la vie que certaines personnes ont, c'est plutôt une délivrance de mourir. Mais pourtant, on est retenu par cette pensée. On a peur de la mort parce qu'on sait très bien qu'après la mort, tout n'est pas fini. Qu'est-ce qui vient? La conscience vous dit, après la mort, suit le jugement. Et alors, si on a peur de la mort, c'est au fond parce qu'on a peur du jugement. Mais alors, pourquoi avoir peur du jugement quand on dit qu'on est si bon? Quand on dit qu'on a fait de mal à personne, qu'on n'a pas même tué une mouche, ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Un mensonge de plus. Et puis, bien d'autres choses. C'est que tout au fond, vous savez bien que vous êtes pécheur. Et que malgré toutes vos bonnes œuvres, vous n'êtes pas sûr que vos bonnes œuvres peuvent compenser vos péchés. Alors il y a une angoisse. Donc, vous avez peur de la mort parce que vous avez peur du jugement. Et si vous avez peur du jugement, c'est à cause du péché. Alors, pour être délivré de la crainte de la mort, qu'est-ce qu'il faudrait? Être délivré du péché. L'aiguillon de la mort, vous l'avez lu ici, c'est le péché. Ce qui fait de la mort son aiguillon, bien c'est justement le péché. Mais, alors, comment être délivré du péché? Allons, mes amis du Québec, qui est-ce qui a montré quelqu'un qui délivre du péché? Qui a montré? C'est votre Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors allez à Jésus, au Québec, pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Jésus directement? Jean-Baptiste, vous le prenez pour votre saint patron, et puis vous n'allez pas suivre ce qu'il dit. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à lui que vous devez aller directement, mais maintenant au Québec, et puis depuis bien des années, il y a tous les saints possibles. Et vous passez par tous les saints. Pourquoi ne pas aller directement à Jésus? C'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, je sais maintenant comment ça s'est passé. Le Seigneur a pris mon péché et il l'a ôté du monde. Comment? Comment est-ce qu'on l'ôte du monde? En mourant. Alors, dans sa mort, il a pris nos péchés. Et puis maintenant, nos péchés sont expiés. Et alors, ce jugement que je craignais, si Jésus a pris le péché, c'est lui qui a subi le jugement. À la croix, il a subi le jugement à ma place. Alors, si lui a été jugé pour moi, est-ce que je serai jugé? Non. Celui qui croit en moi, dit Jésus, ne sera pas jugé. Il est passé de la mort à la vie, il ne vient pas en jugement. Est-ce que vous le croyez? Si vous avez Jésus, si vous lui avez dit oui, si vous l'avez accepté, c'est pas une affaire que vous sentiez quelque chose. C'est une affaire que lui vous le dit. Tu ne seras pas jugé, j'ai été jugé pour toi. Lui a senti toutes les douleurs et a senti tout le courroux de Dieu sur la croix, puisqu'il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans son angoisse suprême, quand il était traité comme le péché même, lui qui avait eu en horreur le péché, il était traité comme si c'était lui qui avait commis tous nos péchés. Et il a supporté cela par amour pour nous. Je sais ce que je peux répondre au pourquoi du Seigneur. Pourquoi m'as-tu abandonné, dit le Seigneur? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Parce qu'il a pris mes péchés, c'est pour moi qu'il a été abandonné. Nous, nous pouvons donner cette réponse à ce cri douloureux de Jésus. C'est pour moi. Alors c'est de là que naît mon amour pour lui. Je ne peux pas vivre comme autrefois, puisque maintenant je sais qu'il est mort pour moi. Donc, celui qui me délivre de la crainte de la mort, c'est celui qui a porté mes péchés, qui a subi le jugement, et maintenant je sais que je ne serai pas jugé. Alors, je veux en savoir un peu plus sur cet événement. Donc, nous avons appris que nous allions être transformés. Je viens maintenant au chapitre 4 des Colossiens, des Thessaloniciens, premier épître aux Thessaloniciens. Chapitre 4, à partir du verset 13, c'est le grand texte de base pour cette soirée, et vous le méditerez vous-même. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, Paul s'écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Qui sont ceux qui dorment? Les morts. En Christ, hein, parce que la mort du chrétien est considérée comme un sommeil. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort, est-ce que vous le croyez, ça? C'est vrai? Vous croyez que Jésus est mort? Oui. Vous croyez que Jésus est mort? La croix a été dressée un jour. C'est un fait historique, oui ou non? Bon. Il y a bientôt 2000 ans, on a crucifié Jésus. Et il est mort. Vous croyez que Jésus est mort? Bon. Et qu'il est ressuscité. 3 jours après le Vendredi Saint, Jésus est ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus est réellement ressuscité? Comme le disaient les femmes. Il est ressuscité. Est-ce que vous pouvez le dire pour vous-même? Je sais qu'il est ressuscité. Oui. Alors, si vous croyez qu'il est mort, si vous croyez qu'il est ressuscité, qu'est-ce que vous devez y croire aussi? Croyez aussi, de la même manière que vous croyez en sa mort, que vous croyez en sa résurrection, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quand le Seigneur reviendra, il ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que c'est tous les morts qui ressuscitent? Non. C'est seulement les morts en Christ, ce qui est appelé ailleurs la première résurrection. La résurrection des justes, la résurrection de vie, la résurrection pour la gloire éternelle. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Puis, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées du ciel. Mais qu'est-ce qui nous sera arrivé? Puisqu'on a lu dans Corinthiens, nous aurons des corps changés. En un instant, en un clin d'œil, nos corps seront changés et avec les morts ressuscités, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, dans cette venue-là, le Seigneur ne revient pas encore sur la terre. Il revient seulement dans les airs. Et puis, qu'est-ce qui se produit? De la terre monte jusqu'à lui dans les airs les croyants. Morts en Christ, qui sont ressuscités, tous les croyants de tous les âges, qui sont ressuscités, Abraham et toute leur compagnie de croyants montent dans ces corps de gloire, et nous les vivants, qui sommes changés, qui seront vivants à son retour, si nous sommes cette génération-là, nous sommes emportés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et il nous conduit où? Dans la maison du Père. Hein? Et il nous présente là à son Père en disant, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Il y a donc une disparition soudaine par la puissance du Seigneur de tous les rachetés, de tous les croyants sur la terre et les autres. Ceux qui n'ont pas voulu croire en lui, ceux qui n'ont pas voulu croire à sa bonté, à son amour, à sa parole, bien qu'est-ce qu'il leur reste? Puisqu'ils n'ont pas voulu croire en lui, ils ne voudraient pas s'en aller avec lui. C'est pas possible. Alors, ils sont bien heureux, ils restent sur la terre. Ils ne sont pas de ceux, car les journaux en parleront de cet enlèvement. Qu'est-ce qu'on dira? Il y a des extraterrestres qui sont venus et ils ont emporté. Tiens, j'ai ma cousine, j'ai mon cousin, j'ai mon frère, j'ai ma sœur, j'ai mon grand-père qui est parti lui aussi. Puis, il y a des enfants qui croyaient, puis qui sont loin, puis on ne les trouve plus. Alors, ça fera un bruit terrible sur la terre. C'est là le grand événement. Mais ça va résoudre la question du chômage. Ça va en donner des occupations et des emplois. Il faudra nommer un nouveau directeur de banque, quelque part. L'un sera pris, l'autre laissé. Alors, est-ce que vous serez de ceux qui seront pris? Il est dit que cette venue, c'est une bienheureuse espérance. Ça devrait nous réjouir. C'est une bienheureuse espérance. Donc, le premier acte de sa venue, c'est de venir d'abord sur les nuées du ciel. Est-ce que le monde voit le Seigneur à ce moment-là? Non. C'est considéré comme le lever de l'étoile du matin. L'étoile du matin ne la voit que ceux qui veillent. Alors, si vous êtes de ceux qui veillent, vous serez enlevés et le Seigneur vous ravira auprès de lui. Dans les aimables demeures de la maison du Père, où seront célébrées les noces de l'agneau. Et alors, sur la terre, eh bien, restent tous ceux qui ont été baptisés, bien sûr, mais qui n'ont eu que la forme de la piété, mais qui en ont renié la puissance. Ils étaient chrétiens seulement de nom. Est-ce que vous êtes chrétien de cœur ou bien seulement de nom? Est-ce que vous êtes personnellement attaché au Seigneur? Est-ce que vous avez dit oui? Est-ce que vous vous reconnaissez comme une brebis du Seigneur maintenant? C'est à vous de le savoir. C'est à vous d'avoir dit oui au Seigneur. Il ne vous force pas, mais il vous dit, voilà votre avenir. Si tu crois en moi, eh bien c'est ça que tu peux espérer. Une nuit, il ne vous laissera pas derrière. Tous ceux qui sont à lui, qui l'ont accepté, ils seront happés. Sera-ce le matin, midi ou minuit, dit le petit cantique? Peu importe, je sais qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. Et voyez-vous, cette espérance, c'est la plus sanctifiante de notre vie. Je ne connais pas de vérité plus puissante pour sanctifier notre vie, de savoir que le Seigneur revient et qu'il peut revenir d'un instant à l'autre. Il n'y a pas de signe pour cela. Le premier événement qui doit se produire maintenant, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ça va faire un choc extraordinaire dans ce monde. Et alors, évidemment, tous ceux qui seront restés, bien, je pense qu'il y aura d'abord des grandes réunions de prière, dans le sens « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », tout ça qu'on se dira « Mais ils y croyaient à ces vérités ?» Et puis, on aura encore les Bibles sur la terre. Alors, petit à petit, il y en a qui croiront à l'explication. Mais à ce moment-là, paraîtra dans ce monde, et il est peut-être déjà né, un homme qui se fera passer pour le Christ, pour Dieu. Puis il dit, mais non, ne vous en faites pas, c'est moi. Et il fera des miracles. Et ces gens, même les Juifs, qui disaient que Jésus faisait des miracles par la puissance de Satan, à cet homme qui se présentera comme un envoyé de Dieu, alors qu'il sera un envoyé de Satan et qui fera tous ses miracles par la puissance de Satan, on dira, c'est de Dieu. C'est Dieu. Une puissance d'erreur surviendra sur ces gens, et parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, il est dit qu'ils croiront au mensonge. Ils croiront au mensonge. Et ils deviendront les disciples de ce faux Christ, de l'Antichrist, du faux prophète. Quelle chose terrible. Eh bien, mes amis, voulez-vous de Jésus ou voulez-vous de l'Antichrist? Voulez-vous du vrai Sauveur ou voulez-vous de l'homme? L'homme qui se fera adorer et qui demandera que tous ceux qui veulent manger encore sur la terre et boire, acceptent une marque sur leurs mains ou sur leur front. Et tous ceux qui ne voudront pas se soumettre, eh bien, il est dit qu'ils ne pourront ni manger, ni boire, ni acheter, ni vendre, parce qu'ils ne se seront pas soumis et ils seront persécutés. Ce sera un temps d'épreuve terrible. Et les Juifs qui sont retournés maintenant en Israël, et on pense bien que nous sommes dans les temps proches du grand événement qui doit être l'enlèvement de l'Église, les Juifs devront passer par une terrible tribulation, parce que eux, il y en a beaucoup qui ne voudront pas se soumettre à l'Antichrist, mais la majorité du peuple l'acceptera. Jésus l'avait annoncé. Quand moi je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas accepté. Quand il en viendra un autre en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. C'est terrible. Hein? Celui-là, vous le recevrez. Mais il y en a qui ne le recevront pas. Et qui deviendront les témoins du Seigneur et qui annonceront l'évangile du royaume à toute la terre. Tous les hommes qui n'ont pas entendu l'évangile auront encore la possibilité de l'entendre et de se convertir au Seigneur après l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui n'ont pas eu la connaissance de l'évangile, tous ceux qui n'auront pas refusé le Seigneur auront encore la possibilité d'être sauvés, mais ils devront passer par ces grandes tribulations qui vont venir et nous les voyons arriver. Tandis que l'Église sera à l'abri dans le ciel, comme Enoch qui a été pris avant le déluge. Et ceux qui seront sur la terre et qui seront sauvés, ils seront comme Noé dans l'arche, protégés par le Seigneur. Nous aurons l'occasion d'entrer dans plus de détails. Je vous donne seulement ces grandes lignes et ce premier événement. Et alors, à un moment donné, quand les noces sont célébrées dans le ciel, le Seigneur sort du ciel avec son Église, avec les siens, pour venir sur la terre. Le Seigneur n'apparaîtra pas dans ce monde sans avoir les siens, parce que les siens font partie de son corps. Lui est la tête, et ceux qui croient sont les membres de son corps. Jésus ne peut pas revenir sans avoir d'abord auprès de lui les siens, puisqu'il forme son corps. Le Christ total, c'est la tête et le corps. Et ce corps, il doit l'avoir au complet, tous ses membres doivent être auprès de lui. Le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Si vous l'avez reçu, si vous l'avez accepté, vous êtes membre de son corps. Et alors, avant qu'il ne revienne en gloire, il va ravir auprès de lui tous ses rachetés et on verra pour la première fois dans une unité totale la tête et le corps. Dieu connaît les siens partout où ils se trouvent, que ce soit dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans l'Église orthodoxe, où que ce soit, il connaît les siens et tout ce qui est du même corps que lui, il les enlèvera, il les prendra. Et alors, dans le ciel, toute chose ayant été manifestée devant son tribunal, il n'y aura plus d'imperfection en nous. Nous serons comme dans ce chapitre 11 des Hébreux. On ne se souviendra pas de nos fautes, des fautes que nous avions pu commettre. Tout cela, il n'en sera pas question, comme vous avez vu qu'il est question que de la foi d'Abraham, que de la foi d'Isaac, que de la foi de Jacob, et non pas des manquements de Jacob, des manquements d'Isaac et des manquements d'Abraham. Alors, quand le Seigneur reviendra en gloire, il est dit qu'il sera admiré dans le monde, il sera admiré, le Seigneur, dans tous ceux qui auront cru. On verra en chaque croyant, en chacun de nous, qu'est-ce qu'on verra? Les perfections du Christ. Et c'est le dernier passage que je vous lis pour que vous ayez déjà une petite idée. Ça se trouve dans 2 Thessaloniciens 1. Vous avez dans 1 Thessaloniciens 4 l'enlèvement. Et puis maintenant, dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et de vos tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous, les affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Ils auront pour châtiment une peine éternelle, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous sera cru. Donc, quand le Seigneur revient en gloire, il a les siens avec lui, et quand on regarde les siens, qu'est-ce qu'on voit en eux? Le Christ, les perfections du Christ. Il sera à ce moment-là admiré dans les siens. Alors, première étape, enlèvement de l'Église, séjour dans le ciel, puis retour en gloire avec Jésus, qui va établir son royaume sur la terre et régner et nous faire participer à son règne. Serez-vous avec lui, ravi avec l'époux, revenant avec le roi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander que tu nous amènes à être plus familiers avec les vérités de ta parole et que nous puissions recevoir dans nos cœurs ces choses merveilleuses qui vont bientôt arriver, que nous puissions penser que cela peut nous concerner. Que nous ne sommes pas de ceux qui attendent la mort, plus ou moins lointaine, mais que nous sommes de ceux qui espèrent même ne pas avoir besoin de passer par la mort pour entrer dans la gloire, car tu as promis que tu reviendras. Et au tombeau de Lazare, tu as pu t'écrier, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ne verra point la mort. » Et nous croyons qu'il y a une catégorie de personnes qui en effet ne verront point la mort. Comme Enoch, comme Élie, nous pouvons être enlevés et entrer dans le séjour de la vie si nous t'avons reçu. Donne-nous de faire notre choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Seigneur Jésus, tu es la vie. Qu'il y ait ce soir une âme qui puisse dire oui, je crois. Oui, je veux croire. Oui, je puis croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Et que tu nous donnes une nuit de repos, une nuit de paix, une nuit où nous aurons l'assurance que nous pouvons nous endormir et que si tu reviens, tu ne vas pas nous laisser, mais que tu nous prendras avec toi. Oh, que nous puissions tous être à ce rendez-vous divin, que ce soit cette nuit, que ce soit demain, que ce soit dans une semaine, que ce soit dans un mois, que ce soit dans une année. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que c'est toi qui as dit, je viens bientôt, donne-nous d'aide. De ceux qui t'attendent et qui ne seront pas surpris par ta venue, pour la gloire du Père au nom du Fils et par la puissance.